VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Bamako, 18h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. En RDC, trois fosses communes ont été découvertes dans le centre du pays où des centaines de personnes ont été tuées depuis juillet dernier dans les affrontements entre les forces de sécurité et une milice locale. C'est l'ONU qui l'a révélé aujourd'hui. Michel Joseph.
Au moins 400 personnes sont mortes et 200 000 ont été déplacées depuis le début des combats contre la milice Kamuina Nsapu. La police a tué son leader en août dernier, provoquant une escalade de la violence. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a exhorté le Conseil des droits de l'homme à Genève à établir une commission d'enquête afin, dit-il, de faire la lumière sur les rapports récents de violations graves et la découverte de trois charniers. Zaïd Raad Al-Hussein n'a donné aucun détail sur ces fosses communes lors de son discours au Conseil qui a abordé la situation des droits humains dans des dizaines de pays. Le Bureau des droits de l'homme en RDC ne pouvait pas non plus fournir d'autres précisions. Quant à la ministre congolaise des droits de l'homme, elle a déclaré à Reuters qu'elle n'était pas en mesure de commenter les propos de M. Zaïd dans l'immédiat. Le gouvernement congolais enquête sur les allégations similaires, y compris de présumées exécutions sommaires impliquant ses forces armées, mais a rejeté les offres de soutien du bureau onusien en RDC, qui l'accuse de partialité.
Au Soudan, le président Omar al-Béchir a accordé ce mercredi une amnistie présidentielle à 259 rebelles capturés lors de combats avec les forces gouvernementales, y compris 66 d'entre eux qui avaient été condamnés à mort. La grâce présidentielle intervient trois jours après l'annonce par un important groupe rebelle de la libération de 125 captifs faits prisonniers lors de combats avec les forces gouvernementales soudanaises. La branche nord du mouvement populaire de libération du Soudan, SPLMN, avait relâché dimanche 125 prisonniers, en majorité des militaires capturés dans les états du Nil Bleu et du Kordofan Sud. Un geste salué par l'armée soudanaise. La décision de gracier les 259 rebelles vise à créer le climat propice pour parachever le processus de paix dans le pays, a souligné le bureau du président Béchir. La CPI, la Cour pénale internationale, a convoqué l'Afrique du Sud le 7 avril pour que Pretoria s'explique sur son refus d'arrêter le président soudanais Omar al-Béchir lors d'une visite que ce dernier a effectuée dans le pays il y a 2 ans. Cette convocation intervient alors que le gouvernement sud-africain vient formellement d'annuler sa décision controversée de claquer la porte de la CPI. Jacques Aristide.
Cette annulation est toutefois temporaire, le temps pour le gouvernement sud-africain de se conformer au jugement de la Haute Cour de Pretoria qui a invalidé le 22 février dernier l'instrument de retrait déposé à l'ONU parce qu'il n'avait pas été précédé d'un vote du Parlement. Mais un projet de loi de retrait doit être déposé prochainement devant les députés sud-africains. En fait, Pretoria exprime son intention de quitter la CPI depuis fin 2015, après des critiques pour ne pas avoir exécuté le mandat d'arrêt contre le président soudanais Omar al-Béchir, accusé de génocide et de crimes de guerre. Une autre responsable du gouvernement, Ayesha Johar, a déclaré aujourd'hui que la convocation des autorités sud-africaines par la CPI concernait donc le non-respect du pays de ses obligations en tant qu'État membre. Plusieurs pays africains reprochent à ce tribunal international, basé à La Haye, de concentrer ses efforts sur l'Afrique.
Journée internationale de la femme, le président américain Donald Trump, qui a tenu avant son élection les propos controversés sur les femmes, a fait part mardi dans un tweet de son immense respect pour les femmes et les nombreuses fonctions essentielles à la trame de la société et de l'économie qu'elles occupent. Mais les félicitations du chef de l'exécutif américain ont provoqué des réactions défavorables sur Internet, où les utilisateurs lui ont rappelé ses propos misogynes, les accusations d'agression sexuelle et sa position controversée sur l'avortement pendant la récente campagne présidentielle. Avant le scrutin du 8 novembre, une dizaine de femmes ont accusé publiquement le candidat républicain de gestes constitutifs d'agression sexuelle. Mais Donald Trump a conquis la Maison-Blanche en partie grâce au vote des femmes, qui ont été 42% à voter pour lui selon les chiffres de sortie des urnes. La Journée internationale de la femme est placée cette année sous le thème de la place des femmes sur le marché du travail. L'occasion aussi de mettre en avant les combats féministes menés un peu partout dans le monde. Salwa Jafari.
Pour les femmes, le combat est permanent. Droit à l'avortement, droit de conduire, de voter ou tout simplement droit au respect dans des sociétés au développement desquelles elles contribuent. Les femmes ont encore du chemin à faire. Les inégalités demeurent. Selon les chiffres de l'Union européenne, les femmes gagnent en moyenne 23% au moins que les hommes. La violence faite aux femmes perdure elle aussi. L'Organisation mondiale de la santé estime que le pourcentage de femmes victimes d'abus physiques ou sexuels commis par un membre de la famille varie entre 15% au Japon et 71% en Éthiopie rurale. L'ONU a choisi cette année comme thème la place des femmes dans le monde du travail et évoque une planète dans laquelle la moitié des femmes aura un emploi d'ici 2030. Et pour la première fois, le 8 mars, les femmes ont décidé de se mobiliser de manière coordonnée dans 50 pays et dans les 5 continents pour célébrer un jour sans femmes. Une grève planétaire pour mettre fin à la violence sociale, légale, politique, psychologique et verbale que les femmes subissent sous différentes latitudes.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Journée internationale de la femme, toujours un profil rare en Afrique, celui de la Sénégalaise Sophie Diouk, 36 ans et mère de 3 enfants. Elle est devenue la première femme conductrice de bus de transport en commun au Sénégal. Son portrait avec notre correspondant à Dakar, Sédina Abagueye.
Taille moyenne, teint noir et pleine d'assurance, Sophie Diouk a plus de 20 ans d'expérience dans le milieu de l'automobile.
J'ai toujours aimé la mécanique et les voitures. Au départ, j'étais mécanicienne, mais j'ai très tôt été attirée par le volant, car mes clients qui venaient au garage dépanner leurs voitures faisaient souvent appel à mes services pour leurs déplacements. Par la suite, ils m'ont incité à me reconvertir en chauffeur.
Au fil du temps, Sophie se détache de la mécanique pour tenter l'aventure dans le milieu des chauffeurs, largement dominé par les hommes.
J'ai conduit des poids lourds et toutes sortes de voitures avant de devenir chauffeur de taxi. Dans les rues de Dakar, je ne voyais que des hommes au volant des bus. Je me suis dit, pourquoi je ne pourrais pas devenir chauffeur de bus? Au début, certains me décourageaient en me disant qu'ils ne prennent pas de femmes. Mais malgré tout, j'ai toujours cru que je pouvais y arriver et aujourd'hui, j'y suis.
Sophie Diouk trône désormais au volant des imposants bus de Dakar Demdik. Face aux préjugés des clients, Sophie peut compter sur la confiance de sa direction. Momodou Sileyane, responsable de la cellule de communication de la Société publique des transports, estime que seule la compétence compte.
Une communauté faite d'hommes et de femmes. Malheureusement, nous avons un métier qui est très orienté genre masculin, pour ne pas faire de qui, mais voilà, les gens, les innovations sont en train de venir. Et la seule condition qu'on a posée sur la table, c'est qu'elle remplisse, qu'elle puisse avoir son permis de transport en commun et quelle est les aptitudes techniques et les tests techniques qu'on a fait pour pouvoir être recrutée. C'était le seul critère. Maintenant, il y a un travail d'adaptation, c'est à elle de le faire, c'est à elle de prouver qu'elle a sa place parmi nous.
La population et les usagers des bus de transport en commun devront dorénavant s'habituer à la junte féminine. La société Dakar Demdik, qui gère les transports publics, compte renforcer ses effectifs avec un contingent de femmes receveuses pour répondre aux défis de l'équilibre social. Sédina Abagueye, à Dakar, pour la Voix de l'Amérique.
Conflit en Afghanistan maintenant. Près de 40 personnes ont été tuées aujourd'hui et une cinquantaine d'autres blessées à Kaboul dans une attaque contre le principal hôpital militaire du pays par un commando d'insurgés islamistes déguisés en médecins. Les détails avec Dili Diko.
Selon le porte-parole du ministère afghan de la Défense, le général Daud Waziri, la plupart des victimes étaient des patients, des médecins et des infirmiers. C'est à 9h que la première explosion a retenti, déclenchée par un kamikaze à l'entrée arrière de l'établissement, ouvrant la voie aux commandos. Ce n'est que 6h après le début de l'assaut, en milieu d'après-midi à Kaboul, que les forces spéciales afghanes déposées en hélicoptère sur le toit de l'hôpital ont pu mettre fin au cauchemar des patients et des soignants. Pris sous le feu de 4 assaillants, tous tués par les forces de l'ordre, l'hôpital de 400 lits et ses occupants ont vécu une journée de terreur ponctuée de détonations et de tirs d'armes automatiques qui ont laissé les salles de soins noyées de sang. Le groupe État islamique a revendiqué sur sa messagerie cryptée Telegram cette opération, alors que les talibans afghans ont démenti toute implication sur Twitter.
Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur...